Merci beaucoup pour cette conférence. C'est des choses que je n'avais jamais entendues sur précisément le sens moral. Et puis, avec l'expérimentation, c'est vraiment passionnant. Alors, je ne sais pas s'il y a des premières questions dans la salle. Au milieu.
Merci beaucoup, Caroline Femdine. Je suis psychiatre en prison et je me pose une question. Dans le modèle que vous présentez, le développement de la psychopathie arrive où ?
J'aime bien. C'est moche de ne pas pouvoir bouger. Je n'ai pas de prétention. Ce genre de modèle n'aborde pas ça. Mais je travaille sur la, comme je vous ai dit, je travaille sur la psychopathie chez les enfants qui ont des désordres de conduite. Vous savez qu'on a une autre attitude, en tout cas aux États-Unis, qui est que pour nous, ça ne nous pose pas de problème de mesurer des tas de choses chez les enfants très tôt pour pouvoir prévenir. Je sais qu'en France, quand il y a eu l'idée de faire ça, il y a eu une sorte de levée de bouclier de beaucoup de psychiatres et surtout de psychanalystes qu'il ne fallait surtout pas faire ça trop tôt. Mais en tout cas, je crois que la plupart d'entre nous, on considère que des signes... Vous voyez, je suis prudent, je cherche mes mots parce que je dois traduire de l'anglais au français, mais aussi parce que je vais être très prudent dans ce que je veux dire. Les enfants qui ont une vulnérabilité à peut-être devenir, vous voyez, il faut être prudent, psychopathe, on va dire, ça c'est plus... Mais froid, kalos, hein, c'est froid. Froid et sans cœur, méchant. Il y a des enfants méchants, ça existe. Là, vous êtes tous d'accord, il y a des enfants méchants. Il y a des enfants méchants qui sont froids et ceux-là sont vulnérables pour développer la psychopathie, ce qu'on appellera nous la psychopathie à l'âge adulte, ceux que je vois moi dans les prisons. Ces signes-là, on peut les détecter vers 8 ans. Après, c'est des probabilités. On n'a pas dit qu'on est 100% sûr. Mais il y a quand même des études qu'on peut faire et qui ont été faites. Donc, il y a un terrain génétique. Mais vers 8 ans, on n'a pas besoin d'attendre 15-16 ans. C'est dommage parce que vers 8 ans, plus c'est détecté tôt, plus on peut intervenir et faire quelque chose.
Et donc, ce serait quoi ? C'est une plus faible sensibilité à la punition ?
Oh, wow, maintenant, d'accord, les mécanismes. Alors, il y a une grande partie qui est génétique. Je pense que c'est moitié génétique. Effectivement, ce qu'il y a de dénominateur commun, ils sont insensibles au feedback négatif. Punition, vous avez absolument raison. Il y a exactement l'inverse. Ils survaluent les récompenses immédiates. Donc, il y a un circuit. J'ai une autre conférence que vous voulez faire, si vous voulez, sur la psychopathie. Il y a des travaux très intéressants qui montrent que le câblage entre le striatum ventral et le cortex préfrontal médian, donc le circuit du plaisir et des valeurs qu'on met, vous aimez votre téléphone, mais vous aimez votre enfant encore plus que votre téléphone, etc. Vous pouvez aimer votre pays ou votre drapeau. Donc la valeur subjective qu'on attribue aux choses, aux gens, aux idées même parfois, eux, ils surévaluent les récompenses immédiates. Alors que nous, on essaye de surévaluer les récompenses qu'on diffère, n'est-ce pas ? Il vaut mieux attendre quelques jours pour avoir plus qu'aujourd'hui un petit peu. Et il y a un câblage, j'ai travaillé là-dessus, j'ai des travaux là-dessus, qui montrent que le câblage chez les psychopathes adultes, les enfants je ne sais pas, mais chez les adultes, il y a un câblage qui est différent entre le striatum ventral. Donc il y a insensibilité à la détresse d'autrui, ça c'est clair, un manque d'empathie pour faire simple, surévaluation des récompenses immédiates, suractivation du circuit du plaisir et insensibilité au feedback négatif. Et ça, c'est contre-intuitif, c'est pour ça qu'on ne sait pas quoi faire, quand on sait tous, parce que ces enfants-là, ils font des choses horribles, ils sont méchants, et plus on les punit, plus ça les renforce. Ça ne veut pas dire qu'on va leur dire que c'est bien ce qu'ils font, mais le renforcement négatif ne marche pas. Le renforcement positif marche beaucoup plus. C'est un peu en dehors de...
J'ai une question sur l'autre côté. L'autre côté de la salle. Voilà, merci.
Pardon.
Jean-Marie Goldgeber en Bretagne.
Je suis ébloui par votre chemise.
Ah, c'est gentil, c'est gentil. Alors, je vais avoir une question gentille, j'espère. Voilà. Vous savez qu'au niveau moral, là, il y a aussi des différences selon que vous êtes chef ou pas chef. Il y a des grands débats là-dessus. Alors, est-ce que vous avez aussi des analyses là-dessus montrant comment celui qui est chef, même chez les enfants, il y a des chefs et des pas chefs. Et quelle est la différence entre ceux qui sont chefs et qui ont une certaine morale et ceux qui ne sont pas chefs qui ont une autre morale? Merci.
C'est super. Tu disais chef de pôle ou
Alors, je ne sais pas si je veux répondre ce que vous voulez, mais alors il y a des études chez les bébés faites par une femme, je vais vous dire son nom parce que si vous regardez son travail, elle n'écrit pas en français, c'est dommage. Alors qu'elle est une Canadienne française qui a immigré aux États-Unis il y a très longtemps. Mais pour moi, c'est la plus intéressante psychologue du bébé qui vit aujourd'hui. C'est une star. Elle s'appelle Renée Baillargeon. Renée Baillargeon, elle a peut-être 70 ans, professeure de psychologie du développement de l'enfant à l'université de Illinois, Urbana-Champaign, au sud, là, dans notre état, au milieu des champs de maïs. Et Renée, elle a fait une étude, elle travaille que sur les bébés, elle. Les bébés jusqu'à 10 mois, et après, ça n'intéresse plus. Elle a une étude super intéressante où elle montre que les bébés distinguent les leaders qui sont des leaders avec des petites vidéos. Donc, il y a des vidéos où c'est à peu près la même histoire, mais il y a un leader qui est un bully, qui est un tyran, et il y a un autre leader qui n'est pas un tyran. Il y a le bon leader et le mauvais leader. Parce que, pour revenir à ça, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup, les hiérarchies sociales, c'est quelque chose qui est naturel aussi. Vous allez dans n'importe quel groupe social, en biologie, ça peut être des oiseaux, les humains, les poissons, il y a une hiérarchie sociale. Il n'y a pas de vie en groupe possible sans hiérarchie sociale, qu'on l'accepte ou pas. Alors après, vous pouvez choisir d'avoir un roi ou un président, c'est autre chose. Il y a toujours une hiérarchie sociale qui s'établit. Les enfants le comprennent très vite. Et les bébés, avant même qu'ils parlent, distinguent les leaders qui sont des tyrans et les leaders qui ne sont pas des tyrans. Donc c'est la première partie de la question. Et après, on peut en parler pendant une heure, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur le statut social, la hiérarchie sociale, avec des modèles animaux et des modèles humains. Mais comme je vous rappelle, je crois que la chose la plus intéressante, c'est que vous mettez des êtres sociaux, quand je dis sociaux, c'est interespèces, quelles que soient les espèces ensemble, une hiérarchie sociale va émerger naturellement. Contrairement à ce qu'on pense, les hiérarchies sociales, ce n'est pas quelque chose qui sont quelque chose de top-down, c'est-à-dire nous on décide que, c'est ce qu'on croit, nous les êtres humains, parce qu'on a un langage, on est organisé, on a des élections, on croit qu'on décide que, et c'est vrai qu'on décide beaucoup par rapport aux autres groupes sociaux, animaux. Mais encore une fois, les hiérarchies sociales, c'est quelque chose qui naissent et émergent naturellement dans le monde du vivant, y compris chez les écrevisses. Non, c'est vrai. Il y a plein d'études là-dessus. C'est les mêmes mécanismes, d'ailleurs. Il y a des mécanismes hormonaux qu'on peut étudier.
Par rapport à la morale, j'ai l'impression que le monde choisit toujours comme leader des gens qui sont complètement amoureux, qui n'ont pas de morale. Quand on pense à Hitler, quand on pense à tous les partis, les gouvernements, au contraire, on a l'impression, des présidents, que finalement, au contraire, on est l'homme, en général, est attiré par le diable, et pour le mettre à la tête, et il tue tout le monde. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que les gens dans la hiérarchie en haut sont des gens qui ont une moralité comme elle est décrite dans la mosaïque. Au contraire.
Bien sûr. C'est compliqué. Alors moi, j'ai pas de prétention. J'ai voulu parler que des bases naturelles de la morale, c'est le titre de ma conférence, de mon intervention. Vous l'avez eu. Après, c'est un grand, grand domaine qui est bien plus compliqué. Et vous parlez maintenant de sciences politiques. Alors moi, je vais vous dire, je suis américain, j'envie Macron, puisqu'on a nous. Parce que oui, il y a des Poutine, il y a des Hitler, des Mussolini et des gens comme au Brésil aujourd'hui, mais où vous savez, des leaders comme Macron, j'aimerais bien qu'ils m'écoutent, ça me ferait plaisir. Ou je suis un petit peu jaloux, hein. On aimerait bien, vous avez de la chance. Donc, non, ça c'est autre chose, c'est compliqué. Les hommes politiques, on pourrait revenir aussi sur la psychopathie. Si vous avez des traits psychopathiques, modérés et une intelligence supérieure, et des fonctions exécutives hautes de capacité d'émission, c'est un avantage dans beaucoup de métiers, y compris dans la politique, parce que vous pouvez prendre des décisions à froid, vous n'avez pas de sentiment de culpabilité, vous pouvez mentir. Je connais notre président, il ment toute la journée. Il a jamais de... Moi, quand je mens, je me sens coupable.
Mais nous qui avons une moralité, on suit.
Oui, on suit. Bon, c'est au-delà de ma conférence. Vous avez raison, c'est bien plus compliqué que ça. Mais sinon, c'est la discussion de café qu'on peut avoir. Mais je suis gêné si ça part là-dessus. Mais vous avez raison, il y a des leaders.
Malheureusement, il faut s'arrêter. Parce qu'il y a la prochaine conférence. Merci infiniment.
Merci.